un journal présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Devant l'ONU, Donald Trump menace l'Iran de nouvelles sanctions et se présente en champion du nationalisme. Nous retrouverons Christian Chesneau à New York dans un instant. Boris Johnson désavoué par la Cour suprême britannique. La suspension du Parlement décidée par le Premier ministre est jugée illégale, analyse d'Antoine Gignot à Londres. Le gouvernement français recule, il maintient finalement l'exonération fiscale accordée aux personnes âgées employant une aide à domicile, décryptage de Stéphane Robert. Et puis nous irons à l'Assemblée suivre le début du débat sur le projet de loi bioéthique, compte rendu de Tara Schlegel. Donald Trump, en campagne, se saisit de la tribune que lui offre la 74e Assemblée générale des Nations unies. Le président américain se vante de ses succès, de la santé de l'économie américaine et il défend sa méthode, la méthode forte, pour arriver à ses fins, que ce soit avec la Chine, la Corée du Nord ou l'Iran. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial à New York, Christian Chesneau.
Le président américain s'est présenté comme le champion du nationalisme. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes, aux nations indépendantes, a martelé Donald Trump. Puis il a disserté sur ses sujets de prédilection et ses bêtes noires, à commencer par la Chine, qu'il accuse de tous les maux, tout en croyant à un possible accord commercial.
The United States lost 60,000 factories after China entered.
Nous avons perdu 6000 usines après l'adhésion de la Chine à l'OMC. Et c'est le cas également d'autres pays de par le monde.
Et
nous espérons pouvoir parvenir à un accord qui profitera à l'un et l'autre pays. Et je l'ai dit très clairement, je n'accepterai pas un mauvais accord pour le peuple américain.
Sur son axe du mal, l'Iran figure toujours en bonne place, même si Donald Trump a expliqué que les États-Unis ne voulaient pas d'ennemis permanents. Maintenant, il a eu des mots très durs contre Téhéran qui rendent très hypothétique une rencontre avec Hassan Rouhani, son homologue iranien.
Aucun gouvernement responsable ne peut appuyer l'Iran assoiffé de sang. Tant que l'Iran continue de nous menacer, les sanctions ne seront pas levées. Au contraire, elles seront durcies.
Il a enfin entonné son couplet favori sur l'immigration illégale, le plus grand défi qui déchire les sociétés selon lui, une façon de justifier sa politique de fermeture des frontières.
Et avant Donald Trump, c'est l'un de ses admirateurs déclarés, le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a pris la parole sur un ton très offensif. Jair Bolsonaro continue d'accuser certains pays de se comporter de façon coloniale à l'égard du Brésil.
Les attaques sensationnalistes dont nous avons souffert de la part d'une grande partie des médias internationaux au sujet des feux en Amazonie, ces attaques ont réveillé notre sentiment patriotique. C'est un mensonge de dire que l'Amazonie est un patrimoine de l'humanité et une erreur, la thèse scientifique qui présente notre Amazonie comme un poumon du monde. S'appuyant sur ces mensonges, un autre pays, au lieu de nous aider, s'est laissé embarquer par les médias et s'est montré irrespectueux, a dévoilé son esprit colonialiste et a touché ce qu'il y a de plus sacré pour nous, notre souveraineté.
Le président brésilien Jair Bolsonaro. Emmanuel Macron doit lui aussi monter à la tribune de l'ONU. Le chef de l'État, comme Angela Merkel, s'efforce en ce moment de relancer le dialogue avec l'Iran. À New York, où il participe lui aussi à l'Assemblée générale de l'ONU, Boris Johnson a encaissé le coup. Sa décision de suspendre le Parlement britannique pendant 5 semaines a été jugée illégale par la Cour suprême britannique. C'est une défaite majeure pour le chef du gouvernement, aussitôt appelé à démissionner par le chef de l'opposition, Jeremy Corbyn. On retrouve Antoine Gignot à Londres.
Ils sont formels et unanimes, les 11 juges de la Cour suprême. La suspension du Parlement pendant 5 semaines est illégale, nulle et non avenue.
La Cour se doit de conclure que la décision de conseiller à la reine de suspendre le Parlement était illégale, car elle a eu pour effet d'empêcher le Parlement de remplir son rôle constitutionnel, et ce, sans justification raisonnable.
Première conséquence, les élus vont reprendre le chemin de Westminster dès demain à la mi-journée. Ils auront la possibilité de lancer des débats d'urgence. Deuxième conséquence, cette décision plonge le Premier ministre dans la tempête. Les députés gallois, les indépendantistes écossais, les libéraux démocrates réclament sa tête, tout comme les travaillistes réunis en ce moment à Brighton.
The Prime Minister has acted wrongly in shutting down Parliament.
Boris Johnson a mal agi, lance Jeremy Corbyn. Le chef de file de la gauche se permet même une plaisanterie. Si le Premier ministre démissionne, il aura au moins un record, celui du plus petit nombre de jours passés à Downing Street.
Après le Brexit, la Manche va-t-elle redevenir une frontière? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin à 18h20 dans le temps du débat. Chaque jour, depuis 44 ans, sa tombe est ornée de fleurs fraîches. Mais le corps de Franco va devoir être exhumé du monumental mausolée dans lequel il repose, près de Madrid. Les 6 magistrats de la Cour suprême espagnole ont en effet rejeté le recours des descendants du dictateur. Une décision historique et une victoire pour le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Depuis son arrivée au pouvoir en juin 2018, l'exhumation de Franco était devenue l'une de ses priorités. Après de multiples rebondissements et une longue bataille juridique, l'exécutif espagnol savoure sa victoire, Marie-Hélène Ballesteros.
Plus de 40 ans après le retour de la démocratie en Espagne et la mort de Franco, le pays s'apprête à tourner une page très polémique, exhumer les restes du dictateur. La décision de la Cour suprême espagnole ce matin est historique. Le chef du gouvernement socialiste Pedro Sanchez l'a d'ailleurs rappelé sur son compte Twitter. Nous vivons aujourd'hui une grande victoire de la démocratie espagnole. Une victoire de taille pour Sanchez qui, dès son arrivée au palais de la Moncloa en juin 2018, a bataillé dur pour exhumer la dépouille du dictateur. Après une longue guérilla juridique avec la famille de Franco, la plus haute instance judiciaire du pays a tranché. Non seulement les restes du dictateur seront exhumés du mausolée franquiste del Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés, mais en plus, la Cour suprême a rejeté à l'unanimité le lieu de réinhumation proposé par la famille, à savoir le caveau familial de la cathédrale de l'Almudena en plein cœur de la capitale. Comme l'avait demandé l'exécutif de Pedro Sanchez, la dépouille de Franco sera transférée dans le petit cimetière très discret de Domingo Rubio dans la banlieue nord de Madrid où repose déjà la femme de Franco et d'autres anciens dirigeants du régime franquiste. Mais malgré cette décision historique de la Cour suprême, la famille du dictateur ne veut toujours pas baisser les bras et compte tenter un recours devant la Cour constitutionnelle espagnole ou pourquoi pas devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg.
Marie-Hélène Ballesteros à Madrid. 3 dirigeants de Volkswagen sont renvoyés devant la justice dans l'affaire du Dieselgate, du nom de ces moteurs diesel truqués pour faire apparaître des niveaux de pollution moindres. Volkswagen a déjà dû faire face à des amendes et des procédures judiciaires, mais aujourd'hui c'est un nouveau volet de l'affaire qui s'ouvre. Le parquet de Brunswick demande le renvoi devant un juge de 2 actuels dirigeants et de l'ancien patron du groupe automobile allemand pour manipulation de cours de bourse. Les explications de notre correspondant en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Il risque déjà jusqu'à 10 ans de prison. L'ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, connaîtra un autre procès. Après la fraude aggravée, la concurrence déloyale et l'abus de confiance, l'ancien ingénieur automobile, devenu l'un des hommes les plus puissants d'Allemagne, est maintenant poursuivi pour manipulation des cours de bourse. Ayant, selon le parquet, connaissance de la fraude en cours dans son entreprise, il aurait sciemment informé, trop tard, les marchés financiers et les investisseurs du scandale qui se préparait afin d'influencer le cours de l'action Volkswagen. À cette époque, en 2015, à ses côtés, son directeur financier, devenu depuis président du conseil de surveillance, est lui aussi mis en examen, ainsi que l'actuel PDG du groupe, Herbert Diess. C'est peut-être là la chose la plus surprenante dans l'annonce de ses poursuites. L'actuelle direction est elle aussi concernée. Les avocats de ces 3 responsables de Volkswagen annoncent que leur client rejette ces accusations, alors que doit s'ouvrir lundi prochain le premier procès groupé de clients. Ils sont plus de 400 000 contre le constructeur, pour qui le scandale du Dieselgate a déjà coûté plus de 30 milliards d'euros.
Ludovic Piétenu à Berlin pour France Culture. La médecine doit-elle aider des femmes à faire un bébé toute seule ou en tout cas sans papa? Après déjà bien des débats hors hémicycle, le projet de loi bioéthique, qui comporte notamment l'extension de la PMA à toutes les femmes, est examiné à l'Assemblée nationale. Et 3 ministres sont venus défendre ce texte et ses 32 articles. Agnès Buzyn, Nicole Belloubet et Frédéric Vidal soutiennent que ce projet de loi tient compte des avancées de la science et de la société tout en fixant des garde-fous. Bonsoir, Tara Schlegel.
Bonsoir.
La ministre de la Santé a présenté comme une chance l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.
Oui, effectivement, l'ambiance était plutôt calme pour accueillir les 3 oratrices. Madame Buzyn a d'ailleurs tout de suite voulu apaiser les esprits.
Cette certitude, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des tenants de l'ordre moral qui seraient les partisans rétrogrades d'une société figée et de l'autre des aventuriers imprudents ou des apprentis sorciers nous menant tout droit à la dystopie. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ce sont des histoires de vie empêchées, parfois même dramatiques. Ce sont des malades ou des familles en quête de réponses.
Pas de réactionnaires d'un côté donc et de progressistes de l'autre, dit la ministre, ce qui n'empêche pas le gouvernement d'affirmer posément ses choix. D'abord qu'il faut ouvrir la PMA aux couples de femmes qui construiront une famille en 10 ans, tout simplement, à leur enfant qu'elle l'aime, a affirmé la ministre. Autre choix encore, celui de donner aux enfants issus d'une PMA un accès à leurs origines, de lever donc l'anonymat des donneurs de sperme et ovocytes. Ce sera un réel progrès, rappelle l'une des rapporteuses du texte, Coralie Dubost.
La question a été soumise en 2011 aux législateurs. Le Sénat s'était prononcé de manière favorable là-dessus. Et finalement, c'est cette Assemblée qui avait décidé de reculer en la matière. Il n'était pas prêt à l'époque. La société n'était peut-être pas prête à l'époque. Et nous ne l'avions pas fait. Résultat des courses, en 2019, tous les enfants issus d'une IAMP, qui sont aujourd'hui des personnes majeures, sont formels. Ils ont besoin effectivement de répondre à cette question, Madame la Ministre, d'où je viens. Ils ne remettent pas en question... Qui a choisi de les mettre sur le chemin ? Ils ont simplement besoin de savoir d'où ils viennent.
Mais il n'y aura pas que la PMA en débat. La recherche fondamentale sur les embryons ou les cellules souches sera aussi une question très épineuse, a noté la ministre de la Recherche, cette fois Dominique Vidal. Les débats risquent bien d'être moins calmes qu'aujourd'hui. Pas moins de 600 amendements ont été déposés sur l'article 1 du projet de loi qui porte sur la PMA.
Arrache légale. Le gouvernement défend son projet de loi. Il renonce en revanche à son projet de suppression de l'exonération fiscale accordée aux personnes âgées employant une aide à domicile. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
Le gouvernement pensait pouvoir réserver cet avantage aux personnes dépendantes ou en situation de handicap. Mais les députés de la majorité se sont montrés hostiles à cette mesure qui risquait de mettre en colère une partie de l'électorat favorable à Emmanuel Macron. Édouard Philippe a donc lui-même annoncé la suppression de ce projet cet après-midi à l'occasion des questions au gouvernement à l'Assemblée.
Oui, c'était au tout début de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale cet après-midi. Édouard Philippe a expliqué qu'il a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées depuis deux jours du côté de l'opposition et de la majorité et que dans ces conditions, lui et son gouvernement ont décidé de faire machine arrière.
J'ai fait le point, monsieur le député, avec la ministre du Travail ce matin. Nous sommes convenus ensemble que cette décision aurait mérité une concertation beaucoup plus approfondie. Cette concertation, elle n'a pas eu lieu, en tout cas pas dans les conditions qui sont conformes à ce que je fixe comme objectif et ce que je veux suivre comme méthode s'agissant de l'acte 2 du quinquennat. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure.
On peut se demander pourquoi cette marche arrière. Le gouvernement a-t-il fait preuve d'improvisation, d'amateurisme ? Sans doute pas, parce que cette affaire permet au Premier ministre de délivrer plusieurs messages en direction de l'opinion. Le premier, c'est une forme de mea culpa. On a été un peu vite, on s'est trompé, on s'y est mal pris. Il montre là qu'il sait reconnaître ses erreurs et faire preuve d'humilité. Deuxièmement, ça lui permet de montrer qu'il est dans le débat, dans l'écoute. Et c'est précisément la ligne de conduite définie par Emmanuel Macron pour l'acte 2 du quinquennat. Débat, écoute, humilité, dont acte. Édouard Philippe est dans la ligne. Ensuite, troisièmement, ça permet au Premier ministre de faire la pédagogie de l'action du gouvernement. Il a expliqué que les impôts en France avaient augmenté au fil des années de façon déraisonnable et qu'en contrepartie, on avait multiplié les niches fiscales. Dès lors, si le gouvernement baisse les impôts, ce sera moins 10 milliards l'année prochaine, a précisé Édouard Philippe. Eh bien, il est légitime de remettre en cause un certain nombre de niches fiscales. Et du coup, quatrièmement, cette disposition brièvement surgit dans le débat public permet de préparer le terrain pour les mois à venir. Elle aura servi en quelque sorte de ballon d'essai. Autrement dit, c'est une forme d'avertissement sans frais pour le moment.
Stéphane Robert. Autour de la CGT de défiler dans toute la France contre la future réforme des retraites, Seuls Solidaires, la FSU et l'UNSA Ferroviaire se sont joints à cet appel à manifester lancé mi-juillet en solo par la CGT. Le rapport présenté par l'ancien haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, devenu depuis membre du gouvernement, préconise de fusionner en un système unique par points les 42 régimes existants à l'horizon 2025. Thomas Larabi, vous avez suivi la manifestation parisienne cet après-midi. Elle rassemblait 12 300 personnes selon le cabinet Occurrence, avec un mot d'ordre très large, emploi, salaire, service public, retraite, stoppons la régression sociale.
Oui, une manifestation morcelée, hétéroclite, bref, une sorte de manif pour tout. Et ce qui frappe dans le cortège, c'est la multitude des petits groupes qui se forment avec des revendications propres.
Nous, c'est la défense des services publics.
Bah, il faut une augmentation générale des salaires.
On manifeste en particulier contre tout l'ensemble de la réforme de l'assurance chômage qui est passée depuis un an.
Il y a aussi un petit peu de réforme des lycées.
Celui-là qui va avoir une retraite par points, eh ben, il aura un coup de poing dans la gueule et c'est tout.
On est danseurs du ballet là, on est à l'Opéra de Paris, on est obligé de partir à la retraite à 42 ans.
parce que physiquement, sinon, on ne suit pas le rythme. Si on est là aujourd'hui, nous, du moins, notre groupe là, c'est pour les retraites principalement.
Danseurs de l'opéra donc, mais aussi pompiers, enseignants, cheminots, retraités, sans-papiers, tous se sont retrouvés pour dénoncer en chœur la politique du gouvernement. Josiane est retraitée et gilet jaune, mais sa grande revendication aujourd'hui, c'est le climat. Et pour elle, tous ces combats sont compatibles.
Fin du monde, fin du mois, même combat. Tout est lié. Et il va falloir avoir de plus en plus d'argent pour isoler les maisons. On nous parle aussi de changer les voitures, de mettre des voitures électriques. Mais par exemple, sur le gasoil, moi je fais la campagne. Mais je ne peux pas faire autrement que de me servir de mon véhicule pour aller faire des courses. Donc ça va, quoi. Il faut arrêter de taper toujours sur le petit peuple.
Manuel, lui, travaille chez Renault et porte son gilet rouge de la CGT.
Si on est ici, c'est pas simplement pour la sauvegarde des retraites, mais c'est aussi pour y arriver, en bonne santé.
Il formule le même souhait de convergence des luttes, mais l'éclatement syndical lui fait craindre le pire.
Chacun fait son truc de son côté, ça c'est dommage. Je préférerais qu'effectivement on soit tous unis et faire une action commune. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui il n'y ait que la CGT et que samedi dernier il n'y ait eu que FO. On a espoir, mais bon, s'il n'y a pas vraiment une contre-attaque du monde des travailleurs ensemble, on ne va pas y arriver, c'est pas possible.
Bonne nouvelle pour Manuel, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé pendant la manifestation qu'une intersyndicale aurait lieu très prochainement afin de trouver une date de mobilisation commune avec Force Ouvrière.
Thomas Larabie. Une étude de l'UNEDIC confirme les craintes des syndicats sur les conséquences de la réforme de l'assurance chômage. Par rapport aux règles antérieures, estime l'UNEDIC, la réforme aurait un impact négatif sur l'indemnisation d'un entrant sur deux lors de la première année de son application. Marie-Lise Léon est secrétaire générale adjointe de la CFDT. Pour elle, la réforme va pénaliser les plus fragiles.
Ce que nous dit aujourd'hui l'étude de l'UNEDIC, c'est qu'elle va toucher de façon beaucoup plus violente ceux qui enchaînent les petits contrats et les périodes de chômage et qui n'arrivent pas à accéder à l'emploi durable. Donc ce sont les plus précaires, les plus fragiles. Les projections nous disent qu'on a à peu près 190 000 personnes qui verront une allocation divisée par deux par rapport à ce que sont les règles d'aujourd'hui. Donc c'est terrible. Si le gouvernement nous dit on assume cette réforme et on va jusqu'au bout, il devra aussi en assumer les conséquences. Et on sait, et on a déjà des alertes du côté de Pôle emploi, qui s'attend à avoir des rencontres avec des demandeurs d'emploi qui vont voir leur situation largement dégradée et il va falloir répondre en face à face à ces personnes. Ils envoient des courriers de façon tout à fait discrète à près de 2 millions de demandeurs d'emploi qui aujourd'hui bénéficient de règles de droit rechargeables et qui demain verront ces règles changer. Donc c'est aussi une illustration que on n'est pas que sur une réforme qui touchera des gens plus tard. Il y a déjà des gens qui sont au chômage, qui ont des règles, qui vont les voir changer et qui vont voir leur situation se précariser.
Marie-Lise Léon de la CFDT, jointe par Anne-Laure Jumet. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, s'explique devant la Cour de justice de la République. En 2017, il avait transmis à Thierry Soler des informations sur une enquête visant le député d'opposition. Cet après-midi, les débats ont porté sur la Constitution et le chemin de ces fameuses fiches d'action publique commandées par la chancellerie via la Direction des affaires criminelles et des grâces et sur leur statut pour savoir si elles sont soumises ou non au secret de l'instruction, Anne Fauquemberg.
L'avocat général du parquet de Versailles commence par s'exprimer. C'est à lui qu'est revenue la tâche d'actualiser la remontée d'informations vers la chancellerie concernant l'enquête préliminaire à l'encontre du député Soler. C'était le 4 mai 2017, dans un climat d'urgence, insiste-t-il. On s'est un peu interrogé sur cette demande d'information en période électorale. Monsieur Soler était dans le paysage, mais nous nous sommes exécutés. Considérez-vous que ces fiches d'action publique sont soumises au secret de l'instruction, demande un député. C'est un vocable que je découvre, mais si ces fiches citent des éléments qui racontent l'enquête, alors oui, elles sont soumises au secret professionnel. N'y avait-il pas des éléments qui étaient sortis dans la presse, poursuit un autre parlementaire. C'est vrai, mais il y a forcément plus d'informations dans ces comptes rendus qu'il décrit comme charpentés. La directrice des affaires criminelles et des grâces en poste par intérim en 2017 poursuit d'une voix ferme. L'envoi d'une fiche d'action publique à un mis en cause est une transgression majeure, affirme-t-elle. Les fuites dans la presse, c'est différent, car avec le garde des Sceaux, nous sommes dans une chaîne de secrets partagés. Des arguments balayés par Jean-Jacques Urvoas, un ex-ministre plus téméraire que ce matin. Les fiches d'action publique, elles ne me donnaient aucune information. J'étais mieux renseignée, en source ouverte. Puis l'ex-politique conclut, la parole, elle relève du ministre, il est le paratonnerre de l'institution et donc le seul juge des informations qu'il reçoit.
Anne Fauquemberg. Demain mercredi, le temps restera maussade avec des averses au nord de la Seine et une nouvelle perturbation arrivera par la Bretagne pour atteindre l'Auvergne l'après-midi et la Franche-Comté en soirée. Le matin, les températures iront de 10 à 21 degrés du nord au sud, de 16 à 28 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Brune.